Ça commence par une voix.
Moi, je parle de la durée de mon émission quand elle est finie. Parce qu'au départ, je ne sais pas. Idéalement, si j'étais directeur de programme, je demanderais aux gens, il n'y aurait pas de minutage. Je demanderais aux gens d'être honnêtes avec leur matière. Et s'ils estiment que leur création vaut 15 minutes, 15 minutes. Si elle vaut 40, 40. Mais c'est la matière qui doit décider. C'est pas toi. Parce que si tu fais déjà le cadre au niveau du minutage, tu vas passer ton temps à couper ou à rallonger. Moi, j'ai vécu tellement ça dans le quotidien. Les gens sont riches en matière et ils coupent parce qu'ils ont un minutage. Ils sont pauvres en matière, ils rallongent pour faire le minutage, qui à mon sens est stupide.
Cette parole de Yann Parentoen a été recueillie par la photographe Pilar Arcila dans son documentaire Au fil du son. À partir de cette voix, il y a des rencontres et des échanges dans des lieux toujours en pleine ébullition, la Maison de la Radio, Arte Radio, le Festival Longueur d'onde à Brest. Alors naît l'envie de découvrir, de questionner et de rapporter des expériences. Alors naît l'envie de rencontrer les personnes qui font la radio d'aujourd'hui pour recueillir et transmettre leurs témoignages. La question du format radiophonique, l'émergence de nouvelles pratiques radiophoniques sur Internet, est-ce encore de la radio ? Et d'abord, c'est quoi la radio ?
Un média, c'est quelque chose qui est au milieu, donc qui va être un support,
Ziad Mahalouf,
physique ou pas physique, d'information.
Une relation,
Thomas Baumgartner,
entre un écoutant, un lisant, un regardant, puis quelqu'un qui produit.
Alors certains diront froidement aussi que c'est un vecteur de communication publicitaire. Ça peut être ça, mais c'est pas que ça.
Guy Détroussel.
Parfois c'est beaucoup ça, parfois pas du tout. Voilà, je pense que c'est une interaction. De plus en plus une interaction. En tout cas dans la radio, ça l'a toujours été finalement, la notion d'interaction.
Un lieu à la fois d'exposition, mais aussi de transformation de ce que peut être l'énonciation.
David Christoffel.
C'est-à-dire que ce qu'on est en train de faire, parce qu'il y a un micro, parce qu'il y a un dispositif technique, et puis parce qu'il y a un jeu d'adresse qui est déplacé de par tout ça, c'est aussi un espace d'énonciation particulier, dont la particularité tient au dispositif technique. Donc pour moi, le média, oui, c'est ça. C'est une énonciation qui se travaille en fonction d'un dispositif technique.
C'est un vecteur d'expression très personnel,
Sylvain Gire,
pour rencontrer le plus de monde. C'est-à-dire, c'est pas tout à fait une œuvre d'art, mais c'est pas loin. C'est quelque chose de créatif qui permet de s'adresser au plus grand nombre.
La radio, du coup ?
La radio, c'est du lien, c'est de la complicité. C'est une chaîne. Et le média, ça fait du lien pour moi, et la radio, ça fait encore plus de lien. La radio traditionnelle, le lien, il se fait par l'animateur, le flux, le journaliste, la musique, le compagnonnage, la complicité, salut les petits clous, alors ça va, vous êtes bien dans l'écoute de machin, bon, ça c'est chouette. D'ailleurs, on dit vous êtes bien sur... ça tient par la main, la radio.
Moi, ce qu'il a de particulier pour moi, c'est qu'il est extrêmement centré sur la parole. Moi, ce qui m'intéresse particulièrement dans la radio, c'est la parole. Alors c'est paradoxal de dire ça en travaillant à France Musique, parce que France Musique appellerait à dire que la radio c'est aussi beaucoup la musique, sauf que France Musique est la radio où il y a le plus de genres musicaux différents. Donc on peut dire aussi que c'est la radio où on peut le mieux se défier des objets musicaux en présence.
La radio, c'est intéressant aussi, c'est un média vraiment individuel. La télé, c'est un média assez collectif qui peut se regarder à plusieurs, en famille, etc. La radio, c'est fondamentalement, c'est un média individuel.
Une histoire d'amour et de danse entre un homme et une pelleteuse.
Top départ des Jeux Olympiques 2012, aujourd'hui dans la capitale anglaise, Londres.
La force spécifique de la radio, c'est l'accompagnement. C'est-à-dire que l'accompagnement de la vie. Et ça, je me suis rendu compte en bossant sur l'oreiller en coin, par exemple, et en faisant appel à des souvenirs d'auditeurs. Parce que les auditeurs se rappellent de l'émission et de ce qu'ils faisaient au même moment. Parce que les souvenirs de radio qu'on a, mais qu'on peut avoir aussi avec la musique, l'écoute musicale, c'est qu'on se revoit en train de faire ceci ou cela, tout en écoutant. C'est ça qui fait de la radio le média le plus intime. Et que la télévision n'aura jamais. Parce qu'on se souvient des émissions, mais on ne se souvient pas de ce qu'il y a autour de l'écran.
Les formats radiophoniques.
Mais déjà, quand on parle de format, moi, je pense en termes de durée. Donc de durée déterminée, c'est aussi une façon d'écrire les choses.
Étienne Noiseau.
Les émissions d'animation, de talk, etc., on sait à peu près qu'il y a un générique, qu'il y a une petite présentation, puis après il va y avoir une chronique, puis après une pause musicale, etc. Bon, c'est ça le format.
C'est une norme qui répond à une habitude acquise. Donc une émission d'une heure, pourquoi une heure ? C'est un repère qui correspond à une norme sociale, c'est-à-dire l'heure pile.
Thomas Baumgartner.
Quand un directeur de chaîne ou une directrice de chaîne décide de donner une heure par jour à une émission de vulgarisation scientifique, c'est pas la même chose que de donner 5 minutes par semaine. Donc le format est un outil qui permet de qualifier la ligne éditoriale. C'est jouer avec le rythme, jouer avec l'habitude de l'auditeur et avec l'étonnement de l'auditeur.
Les formats radiophoniques, je comparerais ça à la palette du peintre.
Anne Brunel.
C'est tout ce qu'on a à disposition pour remplir l'univers mental d'un auditeur. Mais moi, j'ai démarré ma carrière à une époque où la radio, c'était le premier moyen d'être au courant de quelque chose. Et c'était l'événement en direct. Donc ça, c'est un des formats radiophoniques, c'est le news. Et puis la radio, c'est ce qui m'a captivée dans le domaine de la fiction, par exemple. Quand j'avais 14 ans, écouté au château d'Argol, sur France Culture, mis en onde par Jean-Jacques Vierne, avec des voix extraordinaires, des ambiances, une ambiance sonore de brume bretonne. Et c'est ce qui m'a fait découvrir Julien Gracq, c'est la radio. Donc c'est une chose et l'autre, c'est d'un bout à l'autre de la palette, on pourrait dire aussi de la portée musicale.
Dans une radio de contenu, tu peux parler, donc faire des micros, parler dans un studio, ou parler dehors.
Ziad Mahalouf, animateur de l'atelier des médias sur Radio France Internationale.
Donc de l'interview en plateau, tu as des modules écrits, papier, chronique, questions-réponses, on appelle ça aussi QR, donc un journaliste et un autre journaliste qui se renvoient la balle. La chronique aussi est souvent faite sous forme de questions-réponses. Donc là, on est dans le domaine de l'écrit dit, souvent, en fait, c'est ça la réalité. Il y a le vrai reportage pour moi, c'est-à-dire un mélange d'entretien et de situation. Avec plus tu vas avoir de situations parlantes, et mieux ce sera.
Ces toutes petites formes qui vous font rêver, qui vous transportent dans un autre monde, entre deux grosses émissions bien costauds, bien lourdes, qui là supposent une grosse attention et concentration, au milieu, tout à coup, une respiration. Ça, c'est les choses les plus merveilleuses qui soient.
C'est drôle parce qu'aujourd'hui, il y a un 10e étage, un 9e étage. Au 10e étage, il y a les émissions dites chaudes. Et puis au 9e étage, où nous sommes, il y a les émissions dites froides, dont la fiction et le documentaire.
Irène Omelianenko, conseiller de programme au documentaire et à la création sonore à France Culture.
Elles sont froides, pourquoi ? Parce qu'elles sont élaborées, elles prennent du temps, elles demandent de la technique aussi, et puis elles demandent des auteurs. Le fait d'être une radio qui mélange la rédaction, les émissions élaborées, fait que on est de plus en plus contraint par ces horaires d'une rédaction. Le journal, c'est à telle heure.
Je pense que la contrainte et la contrainte horaire est un vrai sujet qui fait que ça dure 3 minutes, c'est une chronique, 7 minutes, c'est une grande chronique, une demi-heure, une heure, et que donc la forme est importante. Moi, je crois beaucoup à la forme, je crois au cadre, et je crois à la durée, aux limites, aux frontières qu'il ne faut pas franchir.
Olivier Poivre d'Arvor, directeur de France Culture.
Le format radiophonique, c'est la construction par un certain nombre de femmes et d'hommes, qui sont des journalistes, des producteurs, des intellectuels, d'un calendrier, d'un agenda très organisé, qu'on va proposer à l'auditeur et qui saura au moins une chose, c'est que ça commence à un moment donné, que ça se termine à un autre et qu'après il y aura quelque chose d'autre. Voilà. Et je ne suis pas particulièrement sensible au grand délire, à l'idée d'une émission qui n'en finirait jamais. Voilà. C'est sympathique, hein, ça. Voilà, mais non.
À 17h, vous avez Hervé Gardette qui, pendant une minute, fait le sommaire de 5 à 7. Après, il me passe le micro pendant une minute pour présenter à toute allure le documentaire qui va suivre. Le documentaire démarre. Et il faut qu'à 55, il y ait les carnets de l'économie de Vincent Lemaire. Si on fait plus de 53 minutes, on est mort. En fait, on meurt sur le territoire du voisin. Il y a des constructions qui font que vous n'arrivez pas au bout de votre histoire au bout de 53 minutes, mettons. Et moi, je l'entends, hein. Je dis, ça va, le document? Ah oui, mais alors on a une matrice de 1h20, comment on va faire? Et donc là, effectivement, quand vous parliez de la phrase de Yann, où on est obligé de couper, tailler, c'est ça. Hein. Moi, je déplore quand même un peu cette réduction des temps d'émission. Enfin, on me dit que 3 heures d'antenne, comme un bon plaisir, ça serait trop long, que personne l'écouterait maintenant. Moi, j'en suis pas sûre. Quand quelque chose est passionnant, il est passionnant. Et s'il est passionnant pendant 3 heures, je suis sûre qu'on l'écoute pendant 3 heures.
La grille des programmes, c'est organiser... un temps qui est forcément un temps qui va répondre à des réalités pour l'auditeur, qui est mon seul sujet, et organiser un temps qui va lui permettre de se situer, lui. Et donc de savoir qu'il faut se réveiller, parce que là, il y a une émission qui s'appelle La Matinale, par exemple, ça donne envie de se réveiller. Je pense que s'il n'y a pas la radio, les gens ne se réveilleraient pas de la même manière. Et donc ça, c'est important, voilà, donc ça ponctue... cette activité essentielle qui consiste à se dire qu'on est encore vivant le jour d'après. En face, il y a quelqu'un qui attend de nous un rendez-vous. C'est donner rendez-vous, faire de la radio. En général, les rendez-vous, on essaie d'être à l'heure.
Vous écoutez France Culture.
13h30, vous écoutez en effet France Culture. Bonjour à tous, les pieds sur terre, c'est maintenant. Aujourd'hui, nous faisons connaissance avec la MAF de l'année, la meilleure apprentie de France, Linda.
L'auditeur moyen de la radio, il faut se dire qu'il a quand même à peu près 46-47 ans à peu près. 80% des Français âgés de 13 ans et plus. Grande masse.
Guy Détroussel, directeur du pôle local de Médiamétrie.
Ben, il va, en fonction de ses horaires, ses habitudes horaires dans la journée, il va avoir un comportement d'écoute de la radio sur des tranches horaires bien spécifiques. Au moment où il va être amené à prendre son véhicule, qui est quand même un axe majeur d'écoute de la radio, ça. Ce pic d'audience, qui est vraiment le prime de la radio, 8h du mat. Un retour à l'écoute, on va dire, plus naturel en fin d'après-midi. Cette courbe, ça reste une grande masse, une moyenne. En fait, ça cache plein de disparités. Ça cache déjà, première chose, le fait que le média radio, il est très corrélé à l'activité. Si vous êtes sur une journée de travail semaine, comme la plupart des Français, vous allez rentrer dans ce schéma-là. Si vous vous retrouvez une journée RTT, congé, etc., déjà, vous allez casser ce rythme. Donc le comportement, il va changer.
À quel public s'adresse-t-on? Que fait-il, ce public-là, au fil d'une journée? Comment le retrouver à différents moments de la journée, en fonction de ce qu'on suppose être son emploi du temps? Ou en fonction de ce qu'on veut que soit son emploi du temps? Parce que parfois... on peut imposer un emploi du temps à quelqu'un en fonction de ce qu'on lui propose à écouter.
Anne Brunel, rédactrice en chef, chargée des programmes web de Radio France.
Je me souviens, même quand j'étais lycéenne, j'arrivais en retard au lycée parce qu'il fallait que j'écoute d'abord Pierre Bouteiller. Et évidemment, il commençait à 9h, c'était compliqué pour être au lycée. Par exemple, les cours commençaient à 9h. On est en train, on est embarqué dans une histoire, on ne va pas partir avant la fin du film. C'est aberrant.
Quand on prend le cas de France Inter et qu'on regarde la grille de France Inter dans les années 70, il y a des... c'est assez hallucinant de voir ça. En 40 ans, il y a des repères qui n'ont pas bougé.
Thomas Baumgartner, producteur de l'atelier du son sur France Culture.
Et je sais que les gens qui faisaient la grille d'Inter dans les années 70, et son directeur de l'époque qui est Pierre Vigne, il a posé des repères qui restent aujourd'hui valables. Il lance le tribunal des flagrants délits en 80. C'est l'émission d'humour de la mi-journée, mais ça reste un repère. Le jeu des 1000 francs ou euros à 1h15, ça reste un repère. Une chose qui a disparu, mais que lui avait mis en place, c'était une émission qui s'appelait l'après-midi Le Temps de Vivre, dont les modules faisaient 7 minutes. 7 minutes. Parce que leurs études avaient montré que le temps d'écoute, d'attention sur quelque chose qui peut nous intéresser, c'était ce temps-là. Et ils ont fait des modules sur ce temps-là. C'est précisément issu d'une réflexion sur qu'est-ce que c'est qu'un format en fonction de quelle heure et en fonction de qui écoute. Voilà.
Alors ce qui est drôle, c'est que maintenant on est tellement arrivé à un point de non-remise en cause de la grille des programmes qu'on est obligé de faire des journées spéciales.
David Christophe.
Et la journée spéciale, c'est quand même le vrai symptôme de ce que la grille des programmes ne peut pas répondre totalement à la question de comment on occupe le temps.
Il y a eu des gens qui ont essayé de casser la norme de ce format radio. Par exemple, Jean Garretto, qui est directeur de France Inter, il dirigeait France Inter de 83 à 88, et dans les premiers temps, il a cassé le format d'une heure. C'était super compliqué auprès des producteurs, parce qu'on cassait leurs émissions d'une heure. Donc déjà, bon. Lui, il réfléchissait en termes de rythme. Il disait, voilà, on va mettre une émission de 20 minutes, deux morceaux de musique, une autre émission de 20 minutes ou d'une demi-heure. Enfin, voilà. Il disait quel est l'idéal, comment accompagner aussi, quels sont l'accompagnement. en variant les rythmes, en réfléchissant en termes de rythme, tu soutiens l'écoute, puisque tu surprends, mais en même temps, tu le fais en fonction de l'oreille de l'auditeur. C'est quand même intéressant de réfléchir comme ça. L'audience a baissé, d'abord. Et ensuite, elle est remontée. Et ensuite, elle est remontée plus haut qu'elle était avant. L'audience a fini par remonter après avoir déstabilisé.
Voilà, bon, bonjour Freddy, bonjour.
Bonjour Monsieur Bouvard, bonjour. Alors, à tous.
Bon, Freddy, on l'appelle Kiki. Pourquoi Kiki?
On l'appelle Kiki, c'est de génération en génération en fait. Ma grand-mère appelait mon père Kiki.
Ah oui.
M'a appelé Kiki après, c'est tombé dans l'oreille des copains. Et,
d'ailleurs, vous ne seriez pas là sans le Kiki de votre papa.
Exactement.
Et à partir du moment où on déstructure une grille, du jour au lendemain, c'est compliqué. C'est possible, mais c'est un risque. Le succès d'audience historique des grosses têtes sur RTL, lié à Philippe Bouvard, il y a quoi, une dizaine d'années, Philippe Bouvard avait été retiré de l'antenne. C'était un pari de rajeunissement, etc. Et ce qui s'était soldé par une catastrophe industrielle, quoi, en termes d'audience. Et derrière, ça a été des années pour récupérer, et en même temps, RTL n'a jamais récupéré le niveau d'audience qu'ils avaient à l'époque. Typiquement, il y a un truc intéressant, c'est RMC en ce moment. Toute la force de RMC et de sa direction d'antenne, c'est de dire on a une grille extrêmement stable et des animateurs référents depuis des années, et c'est vrai. Maintenant, c'est une force. Le truc, c'est jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où ils peuvent capitaliser sur Bourdin le matin, et à partir de quel moment ça deviendra un risque d'avoir encore et toujours Bourdin le matin.
Dans Les Passagers de la Nuit, on m'a demandé de faire une émission de création radiophonique, mais de création courte. Et la première année, on avait 50 minutes par jour. Donc à l'intérieur de ces 50 minutes, eh ben, on pouvait s'autoriser. Et moi, je disais ça aux gens qui partaient enregistrer. Ils me disaient, alors c'est pour combien de temps? Combien de temps ça dure? Et je dis, en fait, je sais pas. On va partir sur une fourchette. On part pas sur quelqu'un qui part pour un truc qui va durer 5 minutes. Il peut pas revenir avec 50 minutes. C'est comment dire? Je leur disais, c'est pas possible, mais pourquoi pas? Soit disponible aussi pour la bonne surprise, pour le truc qui déborde, enfin, et puis on verra après, quoi. Et puis il y avait des séries où je disais, voilà, quand même, on est dans un truc de 50 minutes, donc tu me fais une série. Donc là, moi, je veux un truc réglé, c'est-à-dire que je veux un quart d'heure. Donc en fait, on arrivait à mélanger dans cette émission des formats précis qui, entre guillemets, rassuraient l'auditeur, qui partait sur un avis d'orage dans la nuit, savait que ça allait durer un quart d'heure. Et à côté de ça, des choses qui revenaient en disant, voilà, bon, bah, ça dure 2 minutes 30. Moi, je disais, ah, c'est dommage, je pensais que ça durait 5 minutes, mais effectivement, 2:30, c'est la bonne durée. Voilà.
Bah, Les Passagers de la Nuit, c'était très étrange comme tentative, parce qu'on a l'impression que c'est vraiment le moment où il y a eu la tentative de rassembler à l'intérieur d'un programme hertzien, avec un format qui est celui d'une grille, des tentatives qui pouvaient advenir de par la mentalité de la radio délinéarisée, c'est-à-dire avec des formats qui, pour le coup, dépendent du projet et non pas de la grille. Et par ce travail de décloisonnement autour des formats, ce que ça peut produire sur le travail sur le genre. C'est-à-dire qu'on n'était plus dans le documentaire obligatoirement, dans la fiction obligatoirement, et même si ces deux pans et ces deux balisages étaient présents, on pouvait quand même les travailler d'une autre façon et réfléchir à d'autres dispositifs. Moi, j'ai surtout réfléchi, j'ai l'impression, à la question du témoignage et comment donner au témoignage une valeur de fiction.
Attention, il nous faut votre attention.
J'écoute.
Soit un opéra de Bellini.
Qui s'appelle
Norma.
Norma, de Bellini.
Voilà, qui raconte l'histoire d'une grande prêtresse gauloise dans la Gaule occupée par Rome et qui tombe dans les bras d'un proconsul romain, Pollione.
Ce qui fait qu'elle modifie un peu ses prédictions à l'égard de son propre peuple.
Exact.
Mais Pollione a une autre aventure.
Et Norma finit par se sacrifier en laissant ses enfants sur le carreau.
C'est rapidement dit.
Mais c'est rapidement dit pour planter le décor de la production de David Christoffel. Une enquête, comme un polar.
Il y avait quand même une ligne, c'était de se dire, on ne parle pas de stars, on parle de choses poétiques, la ligne de l'infraordinaire, voilà, toujours Pérec, de se dire, au quotidien, il y a des choses qu'on peut questionner. Voilà, l'inattendu, sous le sabot du cheval, ce qu'on disait, voilà. Ça, c'était une ligne, bon, c'est flou, hein. Mais en tout cas, c'est vaste, mais c'était quand même de se donner comme ça un repère même informel et aux contours aléatoires. C'était la question. Ça a été très vite la grande question. On m'a dit, il faut faire des thématiques. Dans l'équipe, on me dit, ouais, faut que tu thématises. C'était impossible. C'était impossible de thématiser, puisqu'il y avait, trois temps. Il y avait le moment où on lance les projets. Quand je les recevais, je les acceptais, je les mettais dans les mains de chargés de réalisation, je leur faisais choisir ce qu'ils aimaient aussi, eux. Donc ça, c'est un premier temps. Il y avait le temps de la production. En fonction des caractères des uns et des autres, producteurs, chargés de réalisation, etc., c'était plus ou moins rapide. Donc ce calendrier était totalement délié, les éléments les uns par rapport aux autres. Donc ça, c'était un truc à gérer. Et puis il y avait le temps de la production de l'émission elle-même. Au bout d'un moment, j'ai essayé de trouver une ligne qui se transformait en une ligne poétique que moi, j'assumais à travers les textes de liaison que je lisais ou que je lisais avec Marie Surel, qui était l'autre voix de l'émission. Et finalement, en fait, ce type d'émission quotidienne a une inertie gigantesque, dans le sens où faut mettre en route. C'est comme un moteur diesel super lent, c'est un paquebot. Et au bout d'un moment, ça tourne, voilà, l'élan est pris, la vitesse de croisière est prise, et tout d'un coup, toi, tu vois le... Tu as une vision panoramique de tout ce qui se fait et tu peux décider de combiner. Mais l'émission a duré 2 saisons, avec d'une saison à l'autre, passer de 50 minutes à une demi-heure. Donc changement de format. Donc déjà une partie de ton propre repère, de cette inertie, est rejouée. Et je commençais à avoir une vision panoramique assez juste de tout ça, éditoriale et humaine, quand le truc s'est arrêté. Donc en fait, je sentais que c'était la 3e saison qui aurait été celle de la vraie vitesse de croisière avec la bonne... voilà.
Les passagers de la nuit ont été préparés et coordonnés ce soir, comme chaque jour depuis 2 ans, par Yael Mandelbaum et Inès de Bruyne, à qui les passagers doivent tout et surtout d'arriver à l'heure et en bonne forme chaque soir, précieuses Inès et Yael, parce qu'il y avait du monde à coordonner. C'est de la radio collective, ça, ma bonne dame, la réalisation des passagers. C'était Véronique Lamondon qui était ce soir aux manettes, Gaël Ginon, Gilles Davidas, Angélique Thibault. Ça a aussi été Manu Chakfachaï, Marie-Ange Garando, Séverine Cassard, Gilles Mardi-Rossion, Anne-Pascal Desvignes, Clotilde Pivin, Vincent Deck, Bertrand Chaumeton, Philippe Baudouin, Nicolas Berger. Et je les embrasse toutes et tous, comme les maîtres du son qui nous ont accompagnés dans la fabrication de tous les éléments et de toutes les émissions pendant 2 saisons. Ce soir, c'était Martin Delafosse qui s'occupait du son. Merci évidemment aux producteurs et productrices, c'est comme ça qu'on dit, qui sont venus parler de leurs idées, leurs envies, leurs enthousiasmes qu'ils et elles ont transformés en radio. Dans les passagers, avec eux, on a tenté, on a mélangé, on a usé de notre liberté. Ils et elles ont été la chair de l'émission pendant 2 ans. Je les remercie toutes et tous de l'échange de confiance qui a eu lieu. Et tiens, aussi, je les embrasse. Et puis merci à vous. Les passagers de la nuit tirent leur révérence. C'était bien.
Chers auditeurs, Arte Radio a 10 ans. 10 ans d'Arte Radio et toujours pas de fréquence. À qui va-t-on faire croire qu'on fait de la radio quand on n'est même pas sur la bande FM, la bande AM, la bande d'arrêt d'urgence?
10 ans d'une radio web obscure, expérimentale, élitiste et toujours, il faut bien le dire, totalement inconnue. Autant dire, un fiasco.
Une escroquerie!
Arte Radio.com.
Arte, chaîne culturelle européenne, un grand média. Au sein de ce grand média, depuis 11 ans, il y a une zone d'autonomie temporaire qui dure. C'est-à-dire, il y a cette espèce de miracle qu'une petite équipe ait les moyens conséquents, quand même, pour faire à peu près ce qu'elle veut en termes de création radiophonique en ligne.
Sylvain Gire, responsable éditorial d'Arte Radio.
Arte Radio, c'est une petite révolution à l'échelle de la création radio. Elle a démontré, sans le savoir et avec sa plus grande naïveté, que finalement l'Internet était la meilleure chose qui soit jamais arrivée à la radio. C'est un concept qui a créé son propre écosystème, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça existe, ça donne aux gens envie d'en faire, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui font du Arte Radio même s'ils ne travaillent pas là. Et alors c'est des gens dont j'ai jamais entendu parler, qui n'ont jamais travaillé chez nous, je clique, et alors ça commence par un son, et puis il y a une petite phrase, et puis il y a... Je m'appelle Géraldine, j'ai 22 ans. Et moi, à ce moment-là, j'éclate de rire parce que je sais où est-ce qu'ils ont pris cette façon de faire et de commencer un docu. Donc voilà, donc ça a très peu d'importance en soi, c'est un tout petit truc, mais j'ai l'impression qu'il y a une importance qui a essaimé ailleurs.
Moi, je suis venue à l'Internet tout en étant déjà à Radio France depuis longtemps.
Anne Brunel.
parce que, comme rédacteur en chef à France Culture à l'époque, je recevais énormément de demandes des auditeurs de cassettes, de CD, de gens qui voulaient conserver des choses qu'ils avaient entendues, ou bien rattraper des choses qu'ils avaient ratées et dont ils savaient que c'était probablement bien. Beaucoup de gens voulant partager aussi leurs émotions, leurs plaisirs, leur intérêt pour une émission. Donc l'idée de l'avoir sur un support.
Donc bien sûr que cette possibilité de réécoute, d'écoute parfois illimitée, ça a tout changé.
Étienne Noiseau.
Et un blog comme Saint-Aune que j'ai lancé fin 2008, un blog qui se consacre à la critique radiophonique, ça n'aurait pas pu exister avant ces années-là. Parce que, tout simplement, techniquement, ça n'était pas possible.
Le numérique, pour nous, c'est un enjeu majeur. Je pense que pour France Culture, c'est une chance exceptionnelle, peut-être plus que pour d'autres radios, parce que, dans le fond, on fait une radio qui peut quand même être entendue aux quatre coins du monde.
Olivier Poivre d'Arvor, directeur de France Culture.
Elle n'est pas trop localisée, elle n'est pas trop temporelle, elle n'est pas trop nationale. Voilà. Donc nous, on a, grâce à Internet, un champ énorme qui s'est ouvert, qui est le champ du monde. On sort de notre hexagone. Et puis vous pouvez, évidemment, surtout réécouter, si vous voulez, de l'histoire, des idées, de la musique ou du théâtre. Ben vous allez chercher votre livre, comme dans une bibliothèque, dans le fond. Vous allez faire votre petit marché intime. Et en fonction de la nécessité qui est la vôtre à ce moment-là.
Le podcast, c'est vaincre le temps. Voilà, c'est juste essayer de soi-même se sauvegarder aussi. On met des mois à produire quelque chose. On a un moment inouï de diffusion et de communion avec ceux qui, de l'autre côté, l'écoutent. Mais voilà, au bout de 50, 56 minutes, voire au bout de 20 minutes, si c'est des programmes courts, voilà, c'est envolé, c'est perdu et ça va se retrouver stocké, archivé. Ça, c'est quelque chose d'éprouvant, finalement, de douloureux. Et le fait de pouvoir le proposer, non pas uniquement en mode éphémère d'une diffusion broadcast, mais comme un livre, finalement, qu'on édite et que les gens vont pouvoir télécharger gratuitement, ça, c'est un truc qui prolonge la vie, en fait. C'est quelque chose de l'ordre de l'immortalité, le podcast. C'est peut-être un peu disproportionné comme métaphore, mais au fond, il y a de ça.
Anna Weinstein, bonsoir. Du jour au lendemain, avec Alexandre Castan, qui publie trois livres, Planète sonore et Imagodrome aux éditions monographiques, et puis Logique de la map monde aux éditions Filigrane.
Des formats et une grille sur le web.
Les émissions étant disponibles une par une, en pièces détachées, sur Internet, c'est celui qui va écouter, qui va pouvoir composer sa propre grille. Et donc, il va pouvoir écouter une émission du soir, le matin, ce qui paraît totalement fou. Mais le jour où, dans le bus, j'ai perçu, une fois, un matin, mais il devait être 8 heures dans l'autobus, quelqu'un qui écoutait du jour au lendemain. Voilà, l'émission d'interview d'Alain Weinstein, qui est une émission... son nom l'indique, très tardive, qui enjambe une journée vers l'autre. Comment écouter ça à 8 heures du matin? Ou alors, il faut ne s'être pas encore couché, peut-être. Or, voilà, il y a des gens qui vont aller vivre la radio à l'envers.
Et ce qui est justement un des éléments qu'on peut réfléchir quand arrive le net, c'est de découvrir à quel point il est arbitraire que le genre dépende de l'heure dans une grille. Parce que ça va épaissir la façon dont le genre est le genre. C'est que la manière de faire un documentaire s'épaissit dans la manière de faire un documentaire, au point que c'est spectaculaire d'ailleurs sur France Culture, comme les docufictions que fait Christophe Deleu de temps en temps, à une époque, à un moment donné, ils sont passés dans le créneau de Sur les Docs, et maintenant ils passent à 23h dans les créneaux de création. Comme si là, la fiction, le brin de fiction qui avait été mis dans le documentaire avait été basculé comme ça, et renvoyé dans la case de la fiction. Il y a le genre entretien, sur lequel, à mon avis, c'est pareil, il n'y a pas assez de performativité créative. Dans Les Passagers de la Nuit, on avait fait plusieurs choses autour de l'entretien. Moi, dans le cadre de mes activités à la Maison des Écrivains, je réfléchis à la question de l'entretien comme forme et comme genre. Quand je dis comme forme, c'est-à-dire forme que l'on peut rendre plus créative sans que ce soit un enjeu de création, donc relégué à 23 heures.
Ce qui est passionnant avec Arte Radio, c'est que tout d'un coup, on a pu complètement s'abstraire du format, quoi. Et c'était une évidence pour nous dès le début, c'est-à-dire que le programme dure le temps qu'il doit durer. S'il est bien, il continue. S'il est ennuyeux, on le coupe. Gros problème de la radio de création, quand même, jusqu'à présent, c'est qu'elle s'oblige à respecter un format et que parfois, il y a trop à dire, parfois, il n'y a pas assez. Et dans les marges de conférences très prestigieuses comme l'IFC, par exemple, l'International Feature Conference, les gens en parlent, puisqu'ils sont tous dans des radios publiques où ils doivent faire des 50 minutes, et ils vous disent tous que combien de fois ils se sont mis à bourrer de la musique à la fin, et ils avaient un bon truc pour faire 30 minutes, mais pas pour faire 50. Donc ils ont rallongé les disques, ils sont voilà, assez nuls. Ils auraient dû faire 30 minutes. Donc un format radio, pour moi, c'est l'ennemi, c'est bientôt fini. Ça n'a pas son sens à partir du moment où on consomme la culture, la radio, la télé, via d'autres appareils.
Arte Radio, on s'était dit, et on se dit toujours, on produit en fonction de ce que le sujet mérite. Ce qui est quand même intéressant, parce que ça te met quand même aussi en face d'une réflexion que tu n'as plus. Quand tu dois faire une heure, tu fais une heure. Tu ne te dis pas, voilà, s'arrêter à la 46e minute, parce qu'après, c'est mauvais. Après, tu produis en fonction. Donc, une émission d'une heure, ça se prépare. Il faut la préparer comme une émission de deux heures, comme ça, tu es sûr que c'est dense. Mais Arte Radio a amené ça par le fait que ben il y a pas de grille, il y a pas de flux, et les gens écoutent quand ils sont disponibles. Les gens peuvent revenir. Ça a autorisé plein de choses. Dans ce sens-là, c'était un laboratoire et ça reste un laboratoire des formats. C'est vachement bien.
1, 2, 3. 2, 3.
Oui, bonjour, c'est Thomas Baumgartner à l'appareil. Je vous appelle comme convenu.
1, 2, 3, c'est bon.
On peut commencer à discuter et lancer l'enregistrement.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1, 2, 1, 2.
Non, mais ce qui est important, c'est ça.
Eh ben, allons-y alors.
Très bien, bon, on va commencer.
Je voulais vous demander, peut-être déjà pour commencer, si vous êtes content.
Il est possible que ma voix n'apparaisse pas.
Il y a eu un avant et un après Arte Radio, donc moi dans ma pratique de façon complètement décisive. Je crois que j'aurais pas eu sans Arte Radio le mental que j'ai eu pour pouvoir aborder Les Passagers de la Nuit comme j'ai pu le faire. Ça a propulsé toutes ces réflexions-là. Mais d'une certaine façon, il y a comme un retournement normatif au sens où Arte Radio finit par nous dire c'est ça qu'il faut faire sur Internet. Et je pense pas. Enfin, je pense qu'il y a plein d'autres expériences que l'on peut faire sur Internet qu'on peut pas faire sur Arte Radio. Parce que Arte Radio est devenue une grammaire. Dans la grammaire d'Arte Radio, par exemple, il y a la suppression de la voix de l'intervieweur. Par exemple, il y a un documentaire que j'ai entendu qui a été produit l'an dernier, où à un moment donné, un intervenant pose une question à un autre intervenant. Et cette question-là, elle n'est pas supprimée, parce qu'il n'est pas l'intervieweur. Sauf qu'elle devient suspecte, parce que c'est la seule question qu'on entend, dans des tours de parole dont on imagine qu'il y avait aussi des questions. Et alors, pour autant que j'ai beaucoup apprécié, et que je continue d'apprécier, le potentiel poétique qu'il peut y avoir à supprimer la question, je ne comprends pas que la suppression de la question soit devenue systématique et un tic d'écriture. Alors qu'il soit un tic d'écriture, qu'il soit un marqueur qui permette d'identifier la marque Arte Radio, c'est une chose, mais qu'on ne puisse plus trouver sur Internet des documentaires dans lesquels on entend la question qui est posée à la personne qui répond, me pose problème.
La création.
Plus que de la radio.
France Culture, c'est une position politique, au sens fort du terme, de la police de la cité, qui fait qu'un pays se dit il faut faire vivre et faire durer et bien durer une radio financée par la redevance, qui a une mission de service public, une forme d'utilité sociale. Donc c'est une radio, mais ça peut être plein de choses. C'est un point de vue sur le monde, sur la société, c'est un engagement qu'on a avec ceux qui nous écoutent. Après, c'est aussi une attitude France Culture. C'est que les gens qui écoutent France Culture ont, en général, sont assez fiers et ont le sentiment d'écouter un objet, entre guillemets, de distinction. Bon, moi, je veux que ce soit un objet de partage. Et donc, il faut créer des moments, des temps, des lieux qui, où les gens vont se retrouver. Par exemple, les forums. On a créé des forums dans les universités aujourd'hui qui rassemblent plusieurs milliers de personnes. La revue, mais en effet, on a pensé que la radio, c'était plus que la radio. La radio, c'est de l'écriture, essentiellement. Donc, c'est du texte. Et donc, on publie tous les trois mois, à travers France Culture Papier, une revue, un trimestriel, qui donne les textes de la radio. Mais ça pourrait être autre chose. Je ne pense pas que ça puisse devenir des voitures, mais ça pourrait devenir des voyages. On pourrait imaginer qu'il y a des voyages.
Le son est toujours quand même au centre.
Le son, c'est la parole. C'est qu'en fait, dans le fond, notre réussite, ne serait-ce qu'à des chiffres qui ne sont pas négligeables, le fait qu'on ne soit pas une radio minoritaire, mais qu'on soit écouté aujourd'hui par près de 2% de la population qui écoute la radio, c'est pas mal. Et ils l'écoutent parce qu'il y a en effet quelqu'un qui leur parle. Voilà. Et j'insiste sur ces choses très très simples, le rendez-vous avec quelqu'un qui vous parle et qui vous dit quelque chose qu'on attend ou qui vous surprend.
Il y a beaucoup de choses très suspectes dans cette adoration de Yann Parent-Cohen qui s'explique complètement pour son œuvre. Son travail mérite toute l'adoration et le respect du monde. Mais le livre, par exemple, qui a été fait sur lui m'a un peu énervé. Il a servi de prétexte aux gens à ne pas voir. Moi, c'est ça qui m'insupporte. C'est-à-dire que dans un petit milieu que j'ai tendance à appeler les adorateurs de la bande magnétique, il y a eu un refus de voir la radio évoluer, de la voir changer, et notamment vis-à-vis d'Arte Radio. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas compris, sous prétexte que c'était de l'Internet, ils ont refusé de voir qu'on faisait de la radio et ils ont méprisé parce qu'il n'y avait pas de format, parce que c'était court, parce que c'était sur Internet. Et donc ces gens, de toute leur superbe et leur toute puissance, disaient, en gros, nous expliquaient que c'était pas bien ce qu'on faisait, que c'était mieux avant. Et il y a un truc du « c'était mieux avant » dans la radio qui était insupportable. Et je suis content qu'on ait balayé ça d'un coup. C'est complètement ridicule et ça nous fait passer à côté justement de tout ce qui s'est passé, de cette révolution formidable. C'est Yann Parent-Cohen, il n'a jamais parlé à beaucoup de gens, quoi. Et là, tout d'un coup, on a une radio qui parle à plein de gens. Moi, franchement, j'en ai marre de cette religion de la radio, j'en ai marre de ces trucs de radio sur Internet. Je ne sais pas comment me dire. Je ne peux plus supporter. Ça fait 11 ans que je me tape ces débats, ces séminaires. C'est de l'expression, c'est de l'audio, c'est de l'écriture, c'est de la peinture, c'est de la sculpture, c'est ça, quoi, c'est tout. Que ça s'appelle radio ou pas, que ça soit sur une fréquence, que ça obéisse au code. On fait ce qu'on veut. Donc, on peut appeler ça audio, on peut appeler ça... Zigouigoui sonore, c'est une expression. Ce qui compte, c'est vraiment, quand même, c'est du punk rock. Quoi. On ne va pas commencer à dire aux gens, ah mais non, mais il faut apprendre à jouer d'un synthétiseur, ah mais il faut que les morceaux fassent 20 minutes, il faut avoir fait le conservatoire pour jouer. Résultat, ça fait le punk rock et ça fait du bien à tout le monde. Je pense que la radio, c'est ça qu'il lui faut, c'est du punk rock.
Au théâtre, on me disait, t'as pas de voix. Et quand je suis rentrée à la radio, Kodou et Gareto m'ont dit, ta voix va sans doute agacer. On va essayer. Et merci.
J'ai toujours été intéressé par ça, le côté à la fois collectif, formateur, créatif, tout ça mélangé. Donc il y a eu quelques moments dans la radio où il y a eu ça qui a existé. L'Orient Coin en a fait partie. J'avais conscience qu'Arte Radio en faisait partie, en fait toujours partie. Mais les débuts d'Arte Radio, comme tout début de ce type d'aventure, est particulièrement dense, surtout comme moi ou comme d'autres à ce moment-là. On a 25 ans et on est au milieu de ce truc-là. L'Orient Coin a été un autre moment comme ça. Je me suis dit que j'allais écrire un livre là-dessus. J'ai rencontré plein de monde qui a travaillé là. Ce qui est frustrant, en tout cas, ce que j'ai ressenti comme un truc frustrant, c'est qu'on travaille pour soi et que la perspective du livre est non seulement incertaine, parce que surtout au début, moi, j'avais pas d'éditeur. Enfin, j'ai eu un éditeur que vers la fin. Donc, j'ai fait un blog sur l'Oreille en Coin pour me donner comme ça un peu une finalité immédiate. Et à un moment donné, moi, je trouve des archives, je trouve des trucs, on m'en passe. Et je veux partager des choses sonores. Donc, je me mets à entrer dans le code, à chercher un player en flash, etc. Et le jour où j'ai réussi, parce que je ne suis pas du tout programmé, le jour où j'ai réussi, victoire, super, on arrive à écouter du son sur mon blog. C'était artisanal quand même. Et cette expérience-là, en même temps, je continue à bosser à Arte Radio, et je vais voir Arte Radio, je dis, voilà, un truc qui serait quand même top, c'est de permettre aux gens de mettre facilement du son en ligne, du MP3 en ligne, sur un blog perso, sans qu'ils aient à entrer dans du HTML, voilà, qui implique des connaissances. Ça s'appelle les audioblogs d'Arte Radio. Et ça rencontre en fait un appétit et une pratique du son. Et le son grand public, on va dire, la pratique sonore grand public était en train de monter. Et nous, on arrivait avec les audioblogs à la fin de la chaîne en disant « Vous faites du son chez vous. Faites-le savoir facilement. »
Mais alors, moi j'ai eu vraiment
ouvertement. Quand Anne Coutard a fait dans les années 90 une espèce de prospective sur la radio numérique avec un rapport à Tasca, elle avait thématisé cette différence entre ce qui allait être le streaming et le podcast, donc le flux et le stock.
David Christoffel.
Dès lors qu'il y a eu effectivement l'illusion d'une superposabilité entre l'opposition flux-stock et l'opposition streaming-podcast, en plus de ça, moi j'ai rajouté, j'ai pas été le seul, loin s'en faut, une espèce de croyance que cette différence était une hiérarchie ontologique, c'est-à-dire que ce qui était stock était mieux que ce qui était flux. Et Arte Radio est l'incarnation de ça, et je crois qu'on n'a pas tout à fait fini de désidéologiser la différence entre le podcast et le streaming. Il y a des blogs que je lis encore en 2013 qui racontent ça, que sous prétexte qu'on est sur Internet pour faire de la radio, il faudrait faire des choses qui ne peuvent se faire en radio que sur Internet. Et moi, je suis pas du tout sûr de cette... Je ne suis plus du tout sûr de cette évidence-là. Si on va chercher dans la production d'un programme radio pour Internet, ce qui pourrait être des critères de numéricité ou des marques de pertinence que ça tienne sur Internet, d'une certaine façon, déjà, on se décentre de critères de poéticité. Je voudrais quand même, au moins pour tenter l'expérience, imaginer que la poésie est plus importante qu'Internet. La poésie de la radio. Et que, qui plus est, la chose qu'il va falloir sauver quand on met la radio sur Internet, c'est la radio. Et la spécificité de la radio. Qu'est-ce qu'un objet radiophonique vient faire quand il est posté sur un espace web qui n'est pas radiophonique? Et si la question de la spécificité technique doit l'emporter sur la question esthétique, à mon avis, c'est mort, quoi. Et ça donne des choses toutes sèches, qui sont simplement démonstratives du dispositif technique. Et moi, en fait, de fait, je pars toujours de ce qui m'est donné technologiquement plutôt que d'essayer de repousser la technologie. Mais si je devais le faire moi-même, c'est-à-dire performer techniquement à la fois et éditorialement en même temps, je serais la personne qu'on connaît pas encore, parce qu'il y en a pas, en fait, de hackers radio. De personnes qui font les deux.
Il faut que ça chante. Une expérience web radiophonique proposée par Johan Vincent. Merci à Olivier Poivre d'Arvor, Thomas Baumgartner, Anne Brunel, Jean-Noël Buisson, Ghislain Chantepie, David Christoffel, Guy Détroussel, Sylvain Gire, Ziad Mahalouf, Étienne Noiseau et Irène Omelianenko. Avec la voix de Myriam Ajar. Web design, Adrien Germer. Ce projet est la partie pratique du mémoire « La radio et Internet, quel format pour ce nouveau support ?» réalisé par Johan Vincent sous la direction de Jean Rouchouz et Thomas Baumgartner. École nationale supérieure Louis Lumière 2013. Tout de suite, une rediffusion.